Je pense qu'elle est assez cohérente avec tout ce qu'on vient de dire. En fait, c'est-à-dire que de son point de vue, du point de vue d'un homme de gauche révolutionnaire, antifa, que sais-je encore, il ne fait que retourner contre le système la violence que celui-ci perpétue. C'est-à-dire que la violence n'est pas seulement un mal nécessaire dans leur perspective, elle acquiert même une valeur émancipatrice. L'opprimé, en l'occurrence, un militant transgenre, utilise de son droit à la violence pour faire valoir ses propres droits qui sont menacés par un ordre social et tous ses suppôts, dont était Charlie Kirk. Et donc, de sa perspective, il n'a pas initié un acte de violence. Il a même tenté de briser une chaîne de violence qui était déjà en cours et qui était perpétrée par l'ordre social. Donc, c'est vraiment un renversement de la situation qui est produit. Je suis d'accord avec Jean de Gana, nous ne parlons plus la même langue, nous ne vivons plus dans le même monde. Et c'est ce qui fait que vraiment, je pense qu'il y a une dilatation chez eux de ce concept de violence structurelle. Alors, je pense que l'idée même qu'il pourrait y avoir des violences structurelles dans une société n'est pas absurde en soi. Simplement, chez eux, ça va jusqu'à, effectivement, des propos un peu fermes d'un professeur, le fait de dire qu'on pense qu'il n'existe que deux sexes, etc. Tout ça font partie de violences structurelles et qui permettent, qui légitiment une action violente.
Effectivement, on a tous entendu parler avec un peu d'étonnement, d'amusement et de stupeur, en fait, de ce professeur de biologie à qui on reproche d'avoir enseigné que il faut un lapin et une lapine pour produire des lapros et des lapinous, et donc qui a choqué la sensibilité de ses élèves, puisqu'il affirmait que le sexe biologique existe, et on est encore plus évidemment stupéfait par la réaction de la structure éducative qu'il employait, qui lui a dit qu'effectivement, c'était quand même très problématique d'expliquer que le sexe biologique existe. Jean-Yves Gana, cette espèce de violence de gauche, donc on a tous été très surpris quand le Charlie Kirk a été assassiné froidement par quelqu'un qui avait planifié cet assassinat, qui a gravé sur les balles qui ont assassiné le Charlie Kirk des mots de haine, qui a expliqué, vous l'avez rappelé tout à l'heure Antoine Dresse, que c'était évidemment parce que il y avait des propos qui étaient tenus et qui n'étaient pas audibles. Que Charlie Kirk a été sacrifié. Donc voilà. Alors, même si en ce moment dans le procès, les avocats de la défense expliquent, mais non, pas du tout. Il a tiré une seule fois, donc en fait il ne menaçait personne d'autre. Et encore, il a tiré, mais il faudrait que vous prouviez que c'est bien pour les convictions de Charlie Kirk qu'il a été assassiné, puisque le fait que Tyler Robinson sur le moment ait marqué fasciste sur une balle ne signifie absolument pas qu'il était en désaccord avec Charlie Kirk. Donc, enfin, toujours le jeu habituel des avocats de la défense, dire bravo si j'ose dire. Bon, cette conviction incroyable qu'on peut nier, l'évidence s'il s'agit de défendre quelqu'un. En France, on est soumis à peu près au même climat. Je veux dire, bon, là, pour le moment, bien sûr, il n'y a entre guillemets que Quentin Derenck qui est mort dans le cadre d'une rixe. Donc, on a presque l'impression que c'était un guet-apens, qu'effectivement, dans l'excitation du moment, la mort est apparue comme une punition valable pour un fasciste. On les sent exaltés à l'idée de frapper quelqu'un à plusieurs, mais on n'a pas encore le côté, tiens, je prends une arme et froidement, je planifie d'assassiner quelqu'un.
Non, on n'en est pas encore là. Nonobstant toute l'histoire de France depuis quand même depuis la Révolution française, en tout cas toutes les périodes démocratiques sont quand même des périodes proches de la guerre civile quand même. Enfin, je veux dire le jeu parlementaire et le jeu politique est quand même une espèce de petite guerre civile permanente et qui se contracte et se durcit à mesure que se réduit la liberté d'expression. Toute la Troisième République, et à l'exception bien sûr de l'Union sacrée au moment de 14-18, est quand même une période où le jeu politique est extrêmement animé, extrêmement violent. Dans les années, juste après la Libération, disons qu'en France, il y a un consensus hein, sur la résistance, le mythe résistantialiste, etc. Et quelle que soit l'opposition entre communistes et le reste du jeu, les choses sont peut-être plus douces, encore que on a quand même la période OAS et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les années 70 sont remplies de rixes, de bagarres extrêmement violentes entre extrême gauche et extrême droite. Les années 80, avec l'essor du Front National, donnent lieu quand même aussi très régulièrement à des véritables batailles rangées. Donc, on n'a pas encore d'assassinat en tant que tel, encore qu'il y a des violences et on le voit avec Quentin Durand, qui n'est pas un assassinat froid et planifié, mais qui est quand même une violence qui est largement justifiée par les amis de Monsieur Arnault. Je vois mal comment ceci ne finirait pas par advenir, parce que je crois que pour qu'une démocratie soit fonctionnelle, il faut quand même qu'il y ait un cadre, des valeurs communes, etc. Or, on ne les a plus, et qu'il y ait aussi des citoyens d'un même peuple. Et là, il suffit d'aller dans la rue pour constater que il y a beaucoup de citoyens de beaucoup de peuples. Je suis assez pessimiste sur la capacité qu'on va avoir à conserver notre paix sociale, sauf à, bien sûr, restreindre toujours plus la liberté d'expression, nos libertés politiques, etc. Et c'est d'ailleurs le choix qui est fait par nos gouvernants. Pour le moment, pas d'assassinat, mais hélas, si j'ose dire, ceci finira par advenir.
Antoine Bress, le choc de l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis a évidemment déclenché une vague d'indignation contre le wokisme, a déclenché aussi une vague intellectuelle pour réfléchir cette violence de gauche. On s'est rendu compte, et les enquêtes d'opinion l'ont prouvé aux États-Unis, et on tente à le prouver en France aussi, qu'en fait le recours à la violence, et la violence la plus extrême, paraît aujourd'hui être légitime, et plus légitime d'ailleurs pour les militants de gauche que pour les militants de droite, les militants de gauche étant plus nombreux à affirmer que frapper quelqu'un, l'empêcher physiquement de parler, aller jusqu'à l'élimination physique de cette personne est légitime au nom sans doute du plus grand bien, puisque il suffit qu'il y ait ces paroles de haine pour que la haine se répande et que la haine tue d'une manière un peu mystique. Je veux dire, si quelqu'un se sent mal dans sa peau, c'est comme s'il était déjà mort. On voit que cette mort de Charlie Kirk arrive à un moment où le wokisme se sentait menacé par l'arrivée de Donald Trump, par ce discours conservateur, par le fait que Charlie Kirk était un jeune qui s'adressait aux jeunes. Un an plus tard, aux États-Unis, est-ce que la vague Kirk est retombée? Est-ce que les conservateurs ont reflué? Est-ce que la jeunesse républicaine et conservatrice se sent menacée? Est-ce que la jeunesse libérale, démocrate, gauchiste se sent le vent en poupe?
C'est une bonne question. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre. Je pense que la mort de Charlie Kirk a eu un effet de polarisation extrême aux États-Unis et jusque dans tout l'Occident par effet de vague. Effectivement, les sondages d'opinion ont montré qu'une grande partie des citoyens américains avaient conscience que une grande partie de la violence interne à la société pouvait venir de mouvements extrémistes de gauche. La réaction des gens de gauche a été très intéressante, qu'en fait, très peu de gens de gauche ont condamné cet assassinat de Charlie Kirk, en tout cas parmi les figures de gauche, Antifa, ou alors chez des influenceurs d'extrême gauche aux États-Unis, mais en France également. Moi, je me souviens d'influenceurs ou de youtubeurs de gauche français qui disaient, bah, c'est un facho qui a été buté, c'est très bien, on va pas le pleurer. Donc, la mort de Charlie Kirk a un effet de révélation, si je puis dire. C'est-à-dire que ça montre un peu plus clairement comment les pions sont placés sur l'échiquier politique. Néanmoins, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que le mouvement conservateur aux États-Unis a, dans un premier temps, bien activé une machine pour faire de Charlie Kirk un martyr, un héros du camp républicain, etc. Mais concrètement, est-ce qu'un an plus tard, on peut dire que le camp républicain est en position de force et a réussi à retourner la situation à son avantage? Je n'en suis pas persuadé. Je pense que les gens de gauche ont eu une position qui se tient d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas condamné cet assassinat, ils l'ont même approuvé à demi-mot, ce qui montre à leur base militante qu'ils sont prêts à en découdre. Et je pense que c'est une force dans les temps de troubles dont parlait Jean-Luc Gana juste avant.
Jean-Luc Gana, vous-même, donc, cette mort de Charlie Kirk, est-ce qu'elle a représenté un électrochoc dans toute la jeunesse conservatrice, avez-vous eu l'impression que c'était un épisode purement états-unien?
Non, je pense que du fait notamment de la viralité des images et du fait qu'on puisse aujourd'hui non plus apprendre un assassinat dans un entrefilet, dans un journal, mais le voir en direct et en vidéo, bien sûr, ceci a marqué, je pense, un certain nombre de jeunes Français, de jeunes Européens. Bon, en même temps, on voit tellement d'images de violence, de guerre, etc. sur Internet que je ne suis pas certain que ceci ait créé un électrochoc et qu'il y aura réellement un avant et un après Charlie Kirk. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnalités publiques de notre camp ont réalisé, si elles n'en avaient pas conscience, que il est tout à fait possible de mourir pour ses idées. Et je dois dire que assez cyniquement, ceci a quelque chose de bénéfique, puisqu'on a parfois l'impression que dans notre camp, on ne réalise pas l'urgence de la situation et le caractère tragique de l'histoire. Donc, la mort de Charlie Kirk nous rappelle un peu que la politique et l'histoire, c'est assez tragique, et que dans les temps de troubles qu'on annonce sur les réseaux sociaux, eh bien, parfois il advient que ceci se réalise réellement, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est une prise de conscience, au moins pour les personnalités publiques. Je crois que pour la masse, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne s'en souviendront pas dans quelques années, hélas.
Ouais. Non seulement ils ne s'en souviendront pas, mais on se rappelle qu'il y a un an, et donc le jour même et dans les jours qui ont suivi, la gauche française expliquait que c'était bien fait pour Charlie Kirk, de même que lorsque Quentin Derenke est mort, la gauche française a expliqué qu'en fait c'était un fasciste et que c'était bien normal. Et donc on a en fait un climat où la gauche est prête aux violences les plus extrêmes sans jamais venir à récipiscence.
Oui, mais le souci, c'est que la droite se contente de jérémiades et de complaintes face à cela. C'est-à-dire que au lieu de concevoir que en fait notre adversaire veut réellement notre disparition et que c'est le cas quand même, non pas depuis hier, mais depuis le début de l'époque contemporaine au moins, eh bien, on se contente de jérémiades et de dire non mais attendez, c'est pas normal parce que eux ne respectent pas les droits de l'homme. Et en fait, je ne dis pas bien sûr que nous devrions planifier l'élimination de nos adversaires, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est de prendre conscience que on vit dans un jeu politique avec un double langage de la part de nos adversaires, qui est un langage officiellement de progrès, d'état de droit, d'égalité, d'impartialité de la justice. Mais qui, en réalité, un peu comme les bolcheviks avec le communisme, ne peut advenir qu'au prix d'un certain nombre d'injustices, d'élimination d'adversaires, etc. Voilà. Et nous, je crois qu'on pêche par naïveté en essayant de toujours en rajouter dans le côté bisounours, honnêteté, transparence, face à des gens qui, de toute façon, sont de mauvaise foi. Et Hassan II, Allah yirhamo, disait « Il ne sert à rien d'être de bonne foi avec les gens de mauvaise foi ». Je crois que parfois on ferait bien de s'appliquer un petit peu cela.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Gana, merci beaucoup Antoine Dresse, voilà, d'être revenu sur ce qui nous avait stupéfait il y a un an. Merci et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
Ligne droite.
Et bonjour Alice.
Bonjour cher Richard, comment allez-vous?
À merveille, vous-même?
Eh bien moi parfaitement, puisque je viens d'apprendre que nous avons Tariq Ramadan qui porte plainte contre nous.
Ah,
vous savez,
enfin.
La vie de Némésis, c'est un peu un jour une actualité, un jour une plainte, un jour un article à charge contre nous, on a finalement l'habitude. Mais là je dois avouer que c'est un peu dans mon top 10 des faits d'armes qu'on a pu avoir maintenant, bientôt 7 ans d'existence. Alors c'est assez simple en fait, il faut savoir pour ceux qui ignorent que Tariq Ramadan a été condamné 2 fois pour viol. Une fois en France, où il n'a pas daigné se présenter, où il a pris 18 ans de prison par défaut, puisqu'il n'a pas, été présent ni avec ses avocats. Néanmoins, il y a quand même 3 victimes qui expliquent qu'il a abusé d'elles. Et puis, il a été condamné également par le tribunal suisse, cette fois à 3 ans de prison, dont un ferme. Et une année ferme qu'il a le droit de faire tranquillement chez lui. Donc, il a le droit de se promener, il a le droit d'utiliser ses réseaux sociaux, alors qu'on parle quand même d'un viol. Mais le droit suisse permet cela. Si vous avez une peine de 12 mois ou moins, vous avez le droit de la faire chez vous à domicile. Et simplement, nos militantes suisses sont allées tracter pour expliquer qu'elles trouvaient ça un tout petit peu scandaleux de savoir qu'un homme qui avait abusé 2 femmes pouvait se promener dans la rue, se promener en totale liberté. Alors, il a évidemment des restrictions hein, en termes, il ne peut pas aller non plus, il ne peut pas se balader
partout.
Il ne
peut pas aller au parc Astérix comme en France.
Eh bien, il ne peut pas aller tout court en France. France, non pas qu'il n'ait pas le droit d'aller en France, mais simplement s'il mettait le pied sur le territoire français, il serait arrêté directement par les policiers puisqu'il y a un mandat d'arrêt à son égard. Et c'est là où le droit français est quand même magnifique. magnifique, c'est que Monsieur Ramadan a pu bénéficier d'une présomption d'innocence comme n'importe quel citoyen, et là-dessus on s'entend. Néanmoins, on aurait aimé qu'il y ait aussi ce qu'on appelle le principe de précaution, à savoir que le fait qu'il ait bénéficié de la présomption d'innocence, il a pu s'enfuir en Suisse, le temps avant que son procès n'ait lieu. Et la Suisse n'extradant pas ses ressortissants, aujourd'hui, on a donc une personne condamnée pour viol, qui ne fera visiblement jamais sa peine. En tout cas, je lui déconseille de mettre le pied sur le territoire français. J'ai l'impression que ça ne part pas trop dans cette idée-là. Alors lui et ses avocats avaient expliqué qu'en effet, il était pas en état physique, qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas donc se déplacer à son procès. Mais les expertises avaient montré qu'il était totalement capable de pouvoir y aller. Puis aujourd'hui, il effectue des promenades régulières. Bon, voilà, on peut se questionner quand même, et c'est quand même la beauté du droit français. Et la seule fois où on voit vraiment véritablement des frontières s'appliquer, finalement, c'est quand il ne faut surtout pas ramener un violeur chez soi pour qu'il fasse sa peine, en fait, tout simplement. Et à la rigueur, il pourrait la faire en Suisse directement, hein, la peine sur laquelle il était condamné en France, mais visiblement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir être face à son avocate dans le cadre d'un débat qui a expliqué qu'en fait, nous avions des manières totalitaires, puisque nous distribuons des tracts dans des boîtes aux lettres. Alors, le tract est vraiment pas méchant, on explique simplement la réalité, à savoir qu'une personne condamnée pour viol se balade aujourd'hui dans totale liberté dans les rues suisses. Mais on est face à quelqu'un qui, visiblement, est assez choqué de distribution de tracts, plus que par des femmes violées, puisqu'elle expliquait notamment que les victimes de Ramadan étaient des femmes tentatrices ou des amoureuses qui aujourd'hui mentait en fait totalement. Et c'est pas si étonnant, puisque l'avocate de Tariq Ramadan est aussi l'avocate du couple Moretti, vous savez, ce couple merveilleux qui est à l'origine finalement de la mort de dizaines d'enfants en Suisse, vous savez, sur cette station de ski où il y a moins d'un an, c'était le 31 décembre, pour le nouvel an, une boîte de nuit avait pris feu puisqu'elle n'était pas aux normes et que littéralement il y avait de la paille dans le plafond du sous-sol, et donc quand il y avait eu des bougies qui avaient été apportées,
on se souvient tous de
ce drame affreux, et bien voilà, c'est ce genre d'avocate qui aujourd'hui explique qu'il n'y a aucun problème et qui cherche visiblement, en tout cas d'après ce qu'on a entendu, à cacher aussi le fait que monsieur Moretti frappait sa femme. Enfin voilà, on est face à quelqu'un d'exceptionnel.
Pardonnez-moi Alice, mais donc, il porte plainte pour vous donc parce que vous avez distribué un tract, donc, oui. C'est quoi le motif? C'est insulte, diffamation, vous dérangez sa tranquillité?
Totalement, on ne peut plus lui permettre de se promener dans la rue. En fait, on fait simplement donc des distributions de tracts dans les boîtes aux lettres et des micro-trottoirs pour prévenir en fait des femmes notamment que y a aujourd'hui une personne condamnée pour viol qui peut se balader. Alors elle nous explique qu'en fait le droit le permet. Oui, après le droit peut évoluer, hein, c'est quand même le principe même du droit, il est rendu au nom du peuple, hein, donc c'est quelque chose qui est muable, qui est mouvant. Et oui, du coup c'est diffamation et mise en danger de la vie d'autrui, voilà, parce que en mettant en avant ça, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'omerta concernant monsieur Ramadan. Ça devrait être quand même un scandale national, voire international, qu'un homme condamné à 18 ans de prison pour viol ne fera jamais visiblement sa peine. Et ça devrait être un scandale qu'aujourd'hui, il peut continuer à se balader dans la rue, mais aussi, comme je disais, il peut continuer à utiliser ses réseaux sociaux. Je rappelle quand même que Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui a imposé le frérisme partout, notamment en France, notamment par des conférences, par un charisme aussi réel. Et c'est quelqu'un qui, du coup, véhicule cette pensée-là à qui veut l'entendre. Et il continue d'utiliser ses réseaux sociaux, ce qui est quand même assez fou. Normalement, quand vous êtes enfermé, enfin en prison, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos réseaux sociaux. Donc on peut se demander pourquoi là, il peut. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de conférences ou de femmes qui le suivaient et qui étaient assez adeptes de son idéologie qu'il a abusé des femmes. C'est pour ça que c'est pas non plus déconnant de se demander pourquoi aujourd'hui cet homme est en liberté, pas totale, mais enfin quasiment. Et voilà. Mais les grandes méchantes, ce sont nous. Donc il y a eu plusieurs articles, hein, qui ont parlé de nous, expliquant que le mouvement d'extrême droite Némésis s'en prenait à Tariq Ramadan, selon certains médias suisses. Bah non, on est simplement, comme d'habitude, des jeunes femmes qui dénonçons des violeurs et qui trouvons ça assez scandaleux que l'on puisse faire ça. De la même manière que nous, on avait dénoncé Patrick Bruel, le fait qu'il puisse se promener et partir en vacances avec la possibilité de ne jamais revenir, comme ça a été le cas pour Tariq Ramadan. Nous, on demande, est-ce que oui, il y a présomption de dénonce sens, mais on aimerait bien qu'il y ait aussi un principe de précaution qui puisse s'appliquer, une limite peut-être quand vous avez des enquêtes pour crimes qui sont contre vous. Mais bon, le droit peut-être évoluera, nous verrons bien. Nous sommes assez inquiètes quand même pour la suite.
Bon, en tout cas, merci pour votre combat, Alice, et merci de le partager avec les auditeurs de Radio Courtoisie.
Merci, cher Richard.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et bonjour Régis Le Sommier.
Bonjour Richard.
Alors, on parlait avec Antoine Dresse et Jean-Luc Gana de la mort de Charlie Kirk.
Tout à fait.
Vous connaissez les États-Unis, vous y avez fait des reportages. Cette violence politique, cette violence du débat intellectuel, dont on n'avait pas l'habitude en France, mais qu'on a fini en fait par connaître, c'est quelque chose qui vous avait surpris. Comment aviez-vous, vous, perçu la mort de Charlie Kirk?
Alors, si vous voulez, j'ai eu un long passé commun avec les États-Unis. J'ai deux enfants qui vivent là-bas, qui ont respectivement 29 et 27 ans. J'y ai vécu pendant une dizaine d'années comme correspondant de Paris Match. Ce que je trouve intéressant sur la violence aux États-Unis, c'est d'abord, elle est intrinsèque au système américain. Hein. On vient de fêter les 250 ans de la République américaine, enfin des États-Unis d'Amérique, voilà. Et en 250 ans, les États-Unis ont connu 47 présidents, dont 4 ont été assassinés de mort violente. Il y a 8 qui sont morts pendant l'exercice de leur mandat, dont 4 de mort violente. Ça fait quand même une proportion quand même assez importante par arme à feu. Pour les citer, donc le premier d'ailleurs, Lincoln, ensuite Garfield, McKinley, et puis évidemment John Kennedy. Mais
sans parler de ceux qui ont essuyé des tentatives d'assassinat.
J'ai pas trouvé le chiffre, mais il y a effectivement eu un certain nombre, y compris l'actuel président, qui a échappé à pas moins de 3 tentatives pendant la campagne électorale. On se souvient de la balle qui lui a frôlé l'oreille. Et dans un mode un petit peu similaire à celui qui a, on va dire, conduit à la mort de Charlie Kirk, c'est-à-dire un meeting public où un type s'infiltre avec une arme à feu. Et ça, c'est vrai. Les États-Unis, pourquoi plus qu'ailleurs, il n'y a pas plus de ressentiment vis-à-vis des politiques ni d'envie de certains de les éliminer en France ou dans d'autres, mais simplement, c'est plus facile aux États-Unis de se procurer des armes. Vous êtes dans un pays où il y a 393 millions d'armes pour à peu près un peu plus de 300 millions d'habitants. Donc il y a plus d'armes que d'habitants.
C'est un peu comme les cartes vitales en France.
Exactement. Et le rapport que les États-Unis ont avec leurs armes, hein, donc qui est inscrit dans la Constitution, c'est the right to bear arms. Mais on ne dit pas, d'ailleurs, la Constitution américaine est intéressante parce qu'elle ne dit pas vous avez le droit de porter des armes. Elle dit l'autorité ne peut pas aller contre the right to bear arms, contre le droit à porter des armes. Pourquoi ? Parce que c'est un principe fondateur, c'est-à-dire que les États-Unis sont construits à travers les pionniers, ces pionniers, on va dire, progressant chaque fois plus loin vers l'ouest, dans des contrées hostiles, étaient bien obligés d'être armés pour pouvoir survivre contre les bêtes sauvages, contre les attaques des Indiens, des Français ensuite. Vous savez, il y a eu des guerres comme ça aux États-Unis, et cette notion de l'arme qui protège, finalement, eh bien, elle fait partie des origines des États-Unis. Mais je voudrais quand même mettre un bémol par rapport à la situation présente. Moi, j'ai connu les États-Unis dans les années 80-90, de mes premiers voyages. Il y avait des échanges politiques extrêmement durs, déjà à l'époque. Mais il y avait une sorte de principe, c'est qu'à chaque fois qu'un président était élu ou qu'une majorité changeait, traditionnellement, les États-Unis se mettaient derrière la personne qui avait été. Voilà, il y avait un vrai civisme, on va dire, y compris des perdants qui reconnaissaient finalement que le président des États-Unis, avait été élu selon un processus qu'il ne contestait pas. Les choses ont quand même énormément changé, y compris par rapport à l'époque de Barack Obama. Je me souviens, évidemment, Barack Obama, premier président noir, donc au niveau des États-Unis, quand il menait campagne, vous aviez évidemment énormément grande réticence d'États conservateurs. Je me souviens d'un épisode qui était le jour de la mort de Martin Luther King, ce qui est j'étais allé à Columbus dans l'Ohio et il y avait une statue du général Lee, et c'était l'époque où on me demandait déjà d'enlever les statues des généraux sudistes, et des types du Ku Klux Klan étaient venus pendant la marche de Martin Luther King pour protéger la statue.
Et Régis Le Sommier, rappelle des titres de l'actualité et vous poursuivez cette anecdote passionnante. Voilà, c'est un véritable cliffhanger.
Autour de la crise migratoire de Ceuta, l'Union européenne a accordé hier une aide d'urgence de 115 millions d'euros à l'Espagne pour la soutenir dans la gestion de l'enclave. Au même moment, des documents des services de renseignement espagnols déclassifiés viennent contredire frontalement le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, qui affirmait devant les députés n'avoir reçu aucune information lui permettant d'anticiper l'ampleur de la crise. Résultat, c'est une nouvelle fois l'Europe qui subit la crise migratoire que Madrid savait venir et n'a pas su ou n'a pas voulu anticiper. Marion Maréchal a assuré ce mercredi qu'elle sera évidemment présente aux grands événements de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. L'eurodéputée d'Identité Liberté certifie que personne n'a l'intention de nuire au sein du camp nationaliste, seuls les adversaires cherchant, selon elle, à provoquer une division. Et enfin, c'est sans mea culpa qu'Anne Hidalgo défend son bilan sur le périscolaire, alors qu'elle est visée par une plainte pénale déposée par une quinzaine de familles. Elle justifie ce manque par le fait que la ville était alors en pleine campagne des municipales, comme si le calendrier électoral pouvait excuser l'absence d'une mère face à des familles d'enfants agressés dans des établissements dont elle avait la responsabilité pendant des années. Et nous célébrons en ce 10 septembre Saint-Inès et Saint-Aubert.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Régis, on vous a laissé avec les membres du Ku Klux Klan qui arrivent pour défendre une statue.
Oui, absolument. On est à Columbus, Ohio. On est au moment de l'élection de Barack Obama en 2008. Je crois que c'était janvier 2008. Campagne électorale. Non, un peu plus tard, pardon. Puisqu'il a été élu en 2008, en novembre. Donc c'était, on va dire, au printemps 2008. Et oui, il y avait donc ce groupe de militants sudistes. Ils n'avaient pas d'armes, mais ils avaient leurs attributs. Et vous aviez la marche pour Martin Luther King. Donc Columbus, Ohio, il y a une énorme communauté noire. Et ça passait juste à côté l'un de l'autre. Il y avait des policiers qui étaient là, mais si vous voulez, il n'y avait pas de confrontation. Un petit peu comme si chacun, on va dire, respectait constitutionnellement le fait que l'autre ait le droit d'être présent et de faire ce qu'il faisait. Ça n'existe plus du tout. Tout ça est parti en vrille, je dirais, globalement après l'affaire George Floyd. Mais pour moi, la violence ou le retour de la violence désinhibée en politique aux États-Unis est essentiellement le fait d'un discours d'extrême gauche, de l'émergence du wokisme, c'est-à-dire d'une sorte de revanche des minorités assumées, voulues, quitte à bousculer l'ordre établi pour le faire vaciller par la force, en fait. Non pas que de l'autre côté, il n'y ait pas des individus, quand je dis de l'autre côté, chez les suprémacistes, etc., prêts à prendre le pouvoir par les armes, si vous voulez, mais ces gens-là ont été encadrés, quand même, observés, scrutés par le FBI depuis tellement longtemps, que bon, leur rôle, si vous voulez, se contente de... Oui, il y a des néo-nazis aux États-Unis depuis toujours, et d'ailleurs, c'est un pays où vous avez le droit d'être nazi, ce qui est quand même assez incroyable. Enfin, vous avez le droit de le manifester dans la sphère publique. Je me souviens même aux États-Unis, on peut acheter une portion de route à condition de l'entretenir, et on peut avoir son panneau publicitaire. Et dans l'Ohio, il y avait une route, une fois, je m'étais arrêté pour regarder ça, le Parti National Socialiste Écologiste. Des nazis verts affirmés qui avaient acheté une portion d'autoroute pour avoir leur signe, vous imaginez. Donc il y a tout un tas de bizarreries comme ça, et vous avez encore aussi des mouvements suprémacistes. J'étais en Californie, alors la Californie est, on va dire, à 80% à gauche, mais vous avez des portions ultra-conservateurs et ultra-conservatrices des territoires comme Orange County, qui est un comté habitez au sud de Los Angeles, à Huntington Beach par exemple, vous avez des manifestations, il y en a eu cette année encore, de mouvements néo-nazis, et puis les gens les regardent trouvant ça tout à fait normal. Ça, c'est les États-Unis, ou considérant qu'ils ont le droit de s'exprimer. Mais ça, ça a quand même été largement battu en brèche, je vous dis, par ce retour d'une violence vraiment désinhibée d'extrême gauche, d'un appel, j'entendais tout à l'heure votre invité qui disait, c'est totalement vrai, on considère que les propos, pour ce qui est de Charlie Kirk, lui, eux-mêmes, sont incisifs et sont vecteurs de violence, donc en fait, la violence appliquée à Charlie Kirk, en fait, ou à d'autres, ou à Donald Trump, est une violence légitime en réponse à la violence verbale que les individus utilisent. Ça, il y a quand même un dévoiement des choses. Et aujourd'hui, cette espèce de civisme qui existait et qui permettait que de Carter, on passait à Reagan, de Reagan, on passait à Bush, ça c'était Bush père, mais surtout de Bush père à Clinton, avec des changements quand même, on va dire, d'orientation idéologique entre les démocrates et les républicains, même si ils s'entendent sur pas mal de choses. Il y avait quand même un gros changement dans ces sociétés. Était là, ça se faisait, on va dire, avec un ralliement civique de l'ensemble des Américains.
Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Je voudrais, dans les 12 minutes qui nous restent, qu'on parle d'un sujet totalement différent, mais qui tourne aussi, évidemment, autour de la violence, et de la violence la plus extrême, c'est les révélations du journal Haaretz sur Benjamin Netanyahou. Donc, Haaretz a mené une enquête dont les résultats viennent de paraître, et ce sont des résultats qui sont tout à fait surprenants. On aurait prévenu Benjamin Netanyahou la veille des attentats du 7 octobre 2023 que ces attentats allaient se produire. Une longue conversation de 45 minutes avec un alter ego des Émirats. Et, lettre morte, Benjamin Netanyahou n'aurait pas du tout transmis les éléments de cette conversation à ses services de sécurité. Évidemment, Benjamin Netanyahou et ses services nient absolument que cette conversation ait été tenue. Rappelons que le journal Haaretz, c'est un journal de gauche, mais enfin, voilà, c'est l'équivalent d'un journal aussi probe que Le Monde, par exemple. Donc, c'est dire toute l'intelligence et toute la probité des journalistes qu'il emploie. Et deuxième élément de ces révélations, des négociations auraient été proposées à l'État israélien dans les heures qui ont suivi l'attentat du 7 octobre. Et donc, tous les otages israéliens qui avaient été pris par les terroristes du Hamas auraient été possiblement rendus, évidemment, contre rançon et négociation avec l'État israélien. Une demande de négociation qui ont été ignorées par Benjamin Netanyahou.
Oui, vous avez parfaitement résumé cette information et les révélations de Haaretz.
C'est en train de secouer un peu quand même la société israélienne.
Évidemment. Alors maintenant, il faut voir aussi que Haaretz n'est pas neutre, même si c'est un journal, vous l'avez comparé au Monde, j'irai pas jusque-là. Je pense que Haaretz, et ça c'est le propre de la société israélienne, a un véritable côté incisif et extrêmement libre, beaucoup plus que Le Monde, qui est quand même très piloté par le pouvoir en France. Hein. On l'a vu avec l'affaire Federova, par exemple, pour instaurer un climat autour d'une personne et ensuite obtenir du pouvoir son expulsion, pour prendre cet exemple. Le Monde est très fort pour dire, ah, ça y est, on a fait une enquête menée, en général, toujours par Ariane Chemin, et c'est souvent ces mêmes journalistes qui sont présentés comme des grands journalistes, mais qui en réalité sont quand même essentiellement des serviteurs du pouvoir. Et Haaretz, c'est pas du tout ça. Mais je mettrai quand même un bémol par rapport à Haaretz, c'est que Haaretz, dès le 8 octobre, par la plume de Gideon Levy, accuse Benjamin Netanyahou du 7 octobre, dès le 8 octobre. Hein. C'est à cause de la politique de Netanyahou que, en gros, le Hamas et les Palestiniens ont fait ça. Donc c'est leur bête noire. C'est un journal effectivement très classé à gauche. Maintenant, la substance des révélations montre d'abord qu'il y a quand même qu'on arrive dans la société israélienne à disons que personne n'est à l'abri, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Souvent, on tue ces révélations, rien ne sort, tout est cadenassé. Là, en Israël, il y a quand même une certaine liberté de parole. Je dirais qu'il faut s'en réjouir. Et la presse, souvent, fait preuve d'un ton et d'une liberté. Maintenant, jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand Benjamin Netanyahou sera plus au pouvoir, le procès, on va dire, du 7 octobre n'a pas été complet. Il n'y a pas encore eu vraiment de grand déballage. Et les Israéliens sont coutumiers du fait, justement, de poursuivre juridiquement Benjamin Netanyahou et comment protéger, on va dire, tant qu'il est Premier ministre. Ensuite, on verra. À mon avis, les choses ne s'arrêteront pas là.
Alors, il est protégé tant qu'il est Premier ministre. Rappelons effectivement que ça fait des dizaines d'années qu'il a des procès qui l'attendent, qui sont en train de mijoter à feu doux, et que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est qu'il quitte enfin le pouvoir. On a presque d'ailleurs l'impression qu'une partie de la politique de Benjamin Netanyahou pour l'État d'Israël n'est conduite que par la volonté de se sauver lui-même des foudres judiciaires.
Oui, certains vont jusqu'à penser, y compris des Israéliens, que Benjamin Netanyahou a d'abord réglé son compte au Hamas, ensuite au Hezbollah et ensuite attaqué l'Iran pour pouvoir rester au pouvoir. Il y a une forme et vous avez en miroir aussi des ennemis jurés comme le Hamas et Netanyahou qui s'entretiennent pour conserver le pouvoir aussi, puisque toute réforme proposée à Gaza mettrait en péril la toute-puissance du Hamas sur l'enclave, et ça, on sent bien que ils sont pas prêts à lâcher non plus. Donc en fait, il y a une sorte d'ennemis jurés qui entretiennent et qui finalement restent aux manettes.
Ils ont besoin l'un de l'autre.
Ils ont besoin l'un de l'autre, on va dire, voilà. Et Netanyahou. Le fait est que avec le 7 octobre et la réponse qui a suivi, même il faut rappeler qu'elle a été tardive, mais une partie des Israéliens se sont rangés derrière lui et sont toujours derrière lui, hein. Il y a encore une popularité assez importante parce que on va dire qu'il a vengé ce qui s'est passé le 7 octobre. Il a porté le fer aux ennemis d'Israël. Il a, on va dire, largement diminué le Hezbollah, même si il ne l'a pas vaincu. Hezbollah est rentré en guerre contre Israël le 8 octobre, faut le rappeler aussi. C'est le Hezbollah qui a pris l'initiative, et à nouveau, quand il y a eu cette guerre au Liban au début de l'année, c'est à nouveau le Hezbollah qui est rentré en guerre. Donc, Netanyahou sort renforcé quelque part dans la société israélienne qui s'est radicalisée. Ça aussi, c'est des données. Mais il y aura toujours, et c'est le propre, et je vous dis, l'une des vertus du système israélien, c'est qu'à un moment, ça se paye et la facture judiciaire, elle sera là et elle risque d'être très lourde pour Netanyahou. Peut-être même pas sur la question du 7 octobre, mais en tout cas sur ces procès en cours qui risquent directement de l'amener en prison.
Alors, dernière question, vous avez évoqué effectivement l'Iran, l'un des derniers développements de la guerre que l'État d'Israël mène contre le Hamas et tous ceux qui veulent le détruire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une guerre économique qui a été déclenchée par Trump et qui est enfin profitable, puisque l'État iranien a été étranglé, il n'arrive plus du tout à vendre son pétrole, ses pétroliers restent à quai, ils sont chargés sans pouvoir circuler, il n'y a que ceux qui étaient déjà partis avant le blocus qui rapportent encore des devises. Donald Trump a-t-il trouvé le bon moyen de faire plier l'Iran, ou là aussi les gardiens de la révolution sont-ils en train de nous préparer un rebondissement stupéfiant?
Non, parce que les gardiens de la révolution, effectivement, si on prend la donne économique, il est clair que l'Iran montre des signes de fatigue. Maintenant, politiquement, vous faites face à un pays qui a été sous sanction pendant 47 ans. Donc, étant sous sanction pendant 47 ans, vous pouvez vous douter que la société iranienne a des courroies de contournement, justement, des sanctions, et que ça doit marcher à fond en ce moment. L'Iran n'est pas complètement idiote, et à l'image des Émirats et de l'Arabie Saoudite, on fait aujourd'hui jouer les pipelines à fond, puisque le trafic maritime, lui, est sévèrement perturbé. Il y a une autre différence dans l'enthousiasme régulier qu'on entend. Je sais que hier soir, j'étais sur CNews avec Arnaud Klarsfeld, et en général, général, il explique que ça diminue la force du régime et qu'à un moment, ça va tomber. Bon, je vous dis 47 ans de sanctions. Et aussi, une chose très importante, que les Iraniens se battent pour leur survie. Cette guerre est la guerre qu'ils avaient prévue. Les États-Unis ont choisi de la leur mener. En fait, c'est une guerre pour laquelle les Iraniens étaient prêts. Tous les mois, on s'aperçoit qu'ils ont des nouvelles armes. Ils ont une précision incroyable. Et en ce moment, ils sont en train d'essayer de toucher un navire, c'est très important, un navire américain. Ils veulent absolument, avec du balistique, essayer de toucher un navire américain. Par trois fois, ils ont visé des navires de l'USA, de l'US Navy, au point que ceux-ci ont été obligés de quitter les eaux qui étaient la portion maritime dans laquelle ils étaient. Ça, c'est catastrophique. Vous avez un géopolitologue américain qui s'appelle Robert Papp, qui est professeur à l'Université de Chicago, qui appelle ça la roulette russe du porte-avions. C'est-à-dire que si une manœuvre est mal effectuée pour éviter un missile, c'est 150, 200, 300 marins qui meurent. Et là, c'est l'échec assuré pour Trump. Donc Trump joue à la roulette russe avec ça, avec la présence justement de ces flottes qui sont dans le secteur, qui opèrent le blocus dont vous parliez. Donc c'est quelque chose que les Iraniens ont tout à fait compris. Ils ont des armes. Le renseignement leur indique, alors qu'ils viennent des Russes ou des Chinois, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, ils leur indiquent précisément où sont les navires de l'armée américaine. Et ça, il y a un vrai, vrai péril pour la flotte américaine. Si il y a un navire qui est visé, souvenez-vous de l'épisode du HMS Sheffield pendant la guerre des Malouines, ça avait été désastreux pour l'image de la Navy britannique et pour l'image des Britanniques, qui s'était vengé ensuite en coulant le croiseur Belgrano. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Il y avait eu des centaines de marins argentins morts. Et finalement, les Anglais avaient repris les Falklands, donc les Malouines. Mais cette guerre avait commencé par un navire touché par un Exocet tiré par un Mirage. Donc Exocet français, Mirage français des Argentins à l'époque. Et ça, c'est désastreux. C'est le risque que prennent les États-Unis en ce moment.
Donc, on ne sait pas si c'est un risque calculé. En tout cas, pour le moment, le pétrole continue à rester au-dessus de 100 dollars.
Oui.
Donc,
ça ne va pas s'améliorer.
Donc, et on a l'impression, d'ailleurs, que le dernier objectif de la guerre avoué par Trump, c'est uniquement de faire baisser le cours du pétrole. On ne parle plus du tout de changement de régime, on ne parle
ni
plus
de nucléaire.
Voilà, donc tout est fini, tout est concentré sur les détroits d'Ormuz. Il nous reste une minute. Un partenariat avec Oman pourrait-il sauver l'Iran ?
Le partenariat, il est déjà instruit. L'accord, il est déjà signé avec Oman. Maintenant, l'effet perturbateur, il est lié au blocus imposé par les Américains sur le détroit d'Ormuz. Blocus qui est contré par les IRGC, donc les gardiens de la révolution, qui eux-mêmes exercent un contrôle étroit de ce détroit. Les IRGC, vous savez, c'est une organisation militaire très efficace, mais c'est aussi une structure économique qui a provoqué et qui a fabriqué dans la société iranienne un véritable état parallèle. Et quand ils ont vu effectivement la manne financière qui pouvait être tirée du détroit d'Ormuz, évidemment ils ont mis la main dessus et ils sont pas prêts de la lâcher. Donc là, le problème, c'est qu'aucun des deux adversaires n'est prêt à lâcher. La grosse différence entre l'Iran et les États-Unis, c'est que l'Iran se bat pour son sol, pour sa terre. Les États-Unis se battent pour éviter qu'on dise que c'était le mauvais combat qu'ils ont choisi. Voilà.
Merci beaucoup, Régis Sommier, et à la semaine prochaine.
Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Maïlys, vous avez une minute pour nous parler de l'assassinat de Sissi Impératrice.
Oui Richard, nous sommes le 10 septembre 1898 à Genève. Élisabeth d'Autriche, la célèbre Sissi, séjourne alors en Suisse, loin de la cour de Vienne qu'elle supporte de moins en moins. Ce matin-là, elle quitte son hôtel pour prendre un bateau sur le lac Léman. Et sur le chemin, un homme s'approche d'elle et lui plante une lime aiguisée en plein cœur. Sissi parvient encore à monter sur le bateau avant de s'effondrer. Elle a 60 ans au moment des faits. Son assassin s'appelle Luigi Lucchini. C'est un militant anarchiste italien issu de l'extrême gauche révolutionnaire de l'époque et il n'a absolument rien de personnel contre Sissi. Son objectif est simplement de tuer un aristocrate pour frapper l'ordre monarchique. Sa première cible devait d'ailleurs être le duc d'Orléans, finalement absent de Genève. Sissi est donc morte pour ce qu'elle représentait, une impératrice et une dynastie que la gauche voulait abattre. C'était il y a exactement 128 ans, un 10 septembre.
Et voilà, encore un assassinat politique un 10 septembre. Merci beaucoup Maëlys.
Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Alors, cette chronique de l'Orient simplifié, c'est avec Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin.
Bonjour Richard de Sèze.
Alors, depuis la chute de l'Artsakh en septembre 2023, plusieurs dizaines d'Arméniens ont été détenus en Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, une avocate qui représente certains d'entre eux devant la Cour européenne des droits de l'homme a formulé des accusations particulièrement graves sur ces conditions de détention, torture, isolement et violence en raison de leur foi chrétienne.
Et oui, il faut revenir d'abord quelques années en arrière, depuis la guerre de 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puis la prise complète de l'Artsakh, qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh, par les forces azéries en septembre 2023. Plusieurs dizaines d'Arméniens ont été ou sont toujours détenus en Azerbaïdjan. Parmi eux, des militaires et des civils, mais également la plupart des anciens dirigeants politiques de l'Artsakh, dont pratiquement tous les anciens présidents de la République autoproclamée. Et les accusations de mauvais traitement ne sont pas nouvelles. Dès 2020 et 2021, Human Rights Watch avait documenté des cas particulièrement graves concernant des prisonniers de guerre arméniens. Passage à tabac, coups de pied et de matraque, brûlures ou encore décharges électriques. L'organisation avait également authentifié plus d'une vingtaine de vidéos montrant des prisonniers arméniens humiliés, frappés ou contraints à faire certaines déclarations. Mais de nouvelles accusations ont été rendues publiques le 4 septembre dernier par Siranush Sahakian, une avocate qui représente les détenus arméniens devant la Cour européenne des droits de l'homme. Selon elle, certains prisonniers auraient été battus au point de subir des fractures, mais surtout ils seraient aujourd'hui presque entièrement coupés du monde extérieur.
Donc ils n'ont pratiquement plus aucun contact avec l'extérieur.
Oui, ça leur est presque impossible. Ils ne pourraient rencontrer ni leur famille, ni des avocats ou des médecins indépendants, ni même aujourd'hui des représentants du CICR, le Comité International de la Croix-Rouge. Auparavant, le CICR avait pourtant accès aux détenus liés au conflit et indiqué avoir visité tous ceux dont la détention lui avait été officiellement notifiée par les autorités azéries. Mais sa présence permanente dans le pays a pris fin en 2025 et toute nouvelle visite dépend désormais de l'accord des autorités azéries. Les prisonniers conserveraient essentiellement un contact avec leurs proches par téléphone, mais selon leur avocate, ces appels sont surveillés, parfois espacés de plusieurs semaines, et peuvent être interrompus en fonction de ce qui est dit. Cette situation pose évidemment la question de savoir comment vérifier de manière indépendante les conditions réelles de détention, et elle impose bien sûr beaucoup de prudence face aux images ou aux déclarations publiques de ces prisonniers qui peuvent être manipulés par l'Azerbaïdjan. D'anciens captifs arméniens libérés ont affirmé avoir été contraints pendant leur détention de signer des documents ou de faire certaines déclarations fantaisistes sous la menace. Mais les accusations rendues publiques ces derniers jours vont encore plus loin puisqu'elles concernent également la religion des prisonniers.
Donc ce serait en fonction de leur religion chrétienne qu'il y aurait ces persécutions et ces mauvais traitements.
Oui, alors c'est ce que dit leur avocate et les faits qu'elle rapporte sont particulièrement violents. Certains prisonniers arméniens portent des tatouages représentant des croix, ce qui est assez classique en Arménie. Selon Siranush Sahakian, des gardiens auraient cherché à faire disparaître ces signes chrétiens. Certains tatouages auraient été brûlés, tandis que dans d'autres cas, la peau aurait été directement entaillée. Elle affirme également que l'envoi de Bible aux prisonniers aurait été interdit et que certains détenus auraient été contraints de lire le Coran. Si ces accusations sont établies, nous ne serions donc plus seulement face à des mauvais traitements infligés à des prisonniers arméniens, mais à des violences ciblant expressément leur foi chrétienne. L'avocate établit d'ailleurs un parallèle avec une autre question qui inquiète depuis la prise de l'Artsakh en 2023. Vous en avez pas mal parlé à cette antenne, Richard de Sèze, celle du devenir du patrimoine chrétien arménien au Karabakh, notamment les églises, les monastères, les cimetières, les rachkars, donc vous savez, ces espèces de calvaires en pierre, et les inscriptions arméniennes. Alors, il faut cependant préciser que l'Azerbaïdjan rejette catégoriquement ces accusations et que le régime azéri n'est en rien un régime islamiste et que le mode de vie dans le pays est très sécularisé, y compris le mode de vie du couple présidentiel. On peut dire tout ce qu'on veut contre eux, mais ce ne sont pas des barbus fanatisés. Le 5 septembre, la médiatrice azérie Sabina Alieva a ainsi qualifié les accusations de torture et de persécution religieuse d'infondées. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment là qu'est tout le problème. En absence d'un accès indépendant et régulier du CICR aux prisonniers, il est extrêmement difficile de contrôler leurs conditions de détention et de confronter les différentes versions. Une chose est certaine, c'est que pour certains, le procès en appel a déjà eu lieu et il a été aussi expéditif et absurde que le procès en première instance. Les conclusions ont été les mêmes, donc détention à vie, etc. Pour certains, le procès en appel n'a pas encore eu lieu, mais l'issue ne fait peu de doute. Et ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est le silence, mais alors assourdissant, des chancelleries de l'Union européenne, d'habitude si promptes à réagir pour la défense des droits de l'homme, mais pour ces prisonniers politiques arméniens abandonnés de toutes parts, il faut dire, et y compris par le gouvernement de la République d'Arménie actuelle, qui ne dit pas un mot sur ce sujet, mais pour les chancelleries de l'Union européenne, c'est exactement pareil. Pas un mot sur les tortures et les conditions de détention, et même la détention par principe suite à un procès politique, de ces prisonniers politiques arméniens. C'est à se demander pourquoi.
Oui, effectivement, ça serait-ce lié à une certaine crainte de paraître islamophobe, sait-on jamais. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard.
Et également, peut-être une soumission au pétrodollar ou du caviar, la diplomatie du caviar du régime azéri, et puis également de croire sur parole tout ce que dit le gouvernement arménien de Nikol Pachinian.
Merci beaucoup, Benjamin Blanchard, et à la semaine prochaine.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles. Bonjour Gilles Brochard.
Bonjour Arnaud, ça va ?
Ah non, moi c'était Richard, mais c'est pas grave, ça va très bien, merci.
Je t'entends loin.
Et alors, je n'ai pas ta chronique sous les yeux, donc ce qui fait que je ne peux pas faire les lancements habituels.
Richard, tu n'as pas ma chronique ?
Non, mais vas-y, c'est pas grave. Comment ça va arriver ?
Que se passe-t-il du côté de la droite et du centre ?
Ben oui, que se passe-t-il du côté de la droite et du centre ?
Bonjour Richard. Alors, je pense que je suis en direct là.
Oui, exactement, tu es en direct depuis tout à l'heure.
Ben, je dis, alors, de la cacophonie, car certains politiques voudraient nous faire croire qu'il existerait une ligne de front qui irait de Bruno Retailleau jusqu'à Édouard Philippe et Gabriel Attal. Comme si la Macronie pouvait se dissoudre dans une vague alliance des contraires. Alors, Le Figaro a beau publier un sondage qui indique que la primaire est largement souhaitée, on se demande bien ce que l'on pourrait y mettre dedans. Comme l'écrit Le Figaro, avant même l'annonce publique du président d'Horizon mardi soir, Bruno Retailleau et David Lisnard ne cachaient pas leur scepticisme à l'égard d'une main tendue davantage perçue comme une manœuvre politique visant à servir les intérêts d'un camp. Très tôt donc, il est clair que le candidat des Républicains n'avait pas l'intention de répondre présent à l'invitation du maire du Havre qui a dit vouloir réunir les artisans de l'Union au moment de la Toussaint. Alors comment ne pas donner raison à Vincent Trémollet-Zillers qui, en une du Figaro, écrit « Les Français veulent l'alternance, la rupture, mais quand ils tendent l'oreille vers le bloc central, le risque est grand qu'ils n'entendent rien d'autre que la tambouille dans la continuité ». Rappelons quelques vérités premières. La légitimité d'un candidat peut s'appuyer sur l'histoire de Gaulle, la force d'une filiation Pompidou, la fulgurance d'une ambition Giscard, l'élan d'une campagne Chirac, la saga d'une conquête Sarkozy, l'irruption d'une nouveauté Macron. S'il manque tout cela, s'il n'a pas le soutien d'un parti de masse, aucun prétendant ne peut couvrir un spectre politique aussi large que la droite et le centre. L'évidence se constate, elle ne se décrète pas, et la seule évidence qui s'impose, c'est justement qu'aucun candidat ne s'impose.
Et l'opinion titre, elle, sur les nouveaux croisés de l'infantilisme.
Oui, relancée par l'affaire Liana, la proposition de loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants débute son parcours parlementaire et sera étudiée à l'Assemblée début octobre. Comme l'écrit l'Opinion, les propositions de la coalition féministe et infantiliste sont à l'origine de ce texte qui veut réformer le droit de la famille, des enfants, ainsi que les codes pénals et civils. De son côté, Olivier Bacuzza, dans son édito percutant en première page, s'en prend à la condescendance glaciale d'Anne Hidalgo, qui dans le scandale du périscolaire, à propos du scandale du périscolaire, silence de l'hôtel de ville, dysfonctionnement au sein des équipes municipales et j'en passe, tout a été balayé d'un revers de manche par celle qui a dirigé la première ville de France pendant 12 années, écrit le journaliste. Pas d'excuses, pas de mea culpa, à peine deux regrets sur un ton aussi glacial que peu empathique, celui de trous dans les mailles du filet, je cite, et le fait de ne pas avoir participé à des réunions avec des parents pendant la dernière campagne électorale au motif que le moment était trop complexe. Voilà, c'est à lire dans l'Opinion.
Vous avez aussi lu un reportage de Paris Match à la Cité Universitaire qui accueille cette année une personnalité hors norme.
Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire car il s'agit de l'infante Doña Sofia d'Espagne, c'est la deuxième fille du roi d'Espagne. Et Paris Match raconte que tous les deux vont, enfin que qu'elle, je parlerai du deuxième après, vont suivre les cours de Forward College, qui est fondé, un collège qui a été fondé il y a 5 ans. Et qui délivre un diplôme de sciences politiques. Alors, elle vient d'obtenir son baccalauréat international au Pays de Galles. Elle a passé une année au Portugal et donc à l'Atlantic College. Et désormais, on l'appellera, en cours de son nom civil, Bourbon y Ortiz. Alors, saviez-vous, mon cher Richard, que ce collège est affilié à la London School of Economics, qui est l'une des meilleures universités d'Europe? Moi, je ne le savais absolument pas. Alors, c'est une sorte de Montessori pour jeunes adultes, écrit la journaliste de Paris Match. Ici, il n'y a pas d'amphi, confie le directeur Boris Valbaum, parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Alors, les élèves sont 15 par classe, les élèves ne sont pas, enfin, ils sont pas là pour apprendre des notes, mais pour intervenir, je cite, participer, développer leur intelligence cognitive, émotionnelle, sociale, pratique. On fait de la psychologie, de l'IA, de la data, des sciences politiques, tout ça en bannissant l'ordinateur de la classe. Alors, je précise que si vous étiez tenté par ces études, ça vous coûterait 18 000 euros par an, logement non inclus, mais qu'il y a de la présence de 30% de boursiers. Et de son côté, pour sa première année dans le nouveau collège, le prince vert Magnus de Norvège, qui est le numéro 2 dans l'ordre de succession au trône, c'est le petit-fils, vous savez, du roi de Norvège, Harald V, qui vient de mourir, lui va intégrer le même collège, mais à Lisbonne. Et dans le reportage que publie Paris Match, vous verrez donc la chambre de la princesse espagnole, 17 mètres carrés, occupée par dans les très élégants pavillons en forme de manoir version Harry Potter, qui n'est autre que la fondation Émile Louise Deutsch de la Meurthe. Alors le parc, vous le savez sans doute, s'étend sur 34 hectares, c'est accessible à tous, et cette institution avait été fondée en 1925. Elle accueille aujourd'hui 12 000 étudiants, donc au cœur à la lisière du 14e arrondissement, au bord des boulevards Maréchaux. Ni cantine, ni room service, les repas sont pris dans une cuisine partagée. Coût du loyer, 700 euros par mois. Voilà, lire ce reportage dans Paris Match.
Et enfin, dans le Figaro littéraire, vous avez lu le portrait d'Henri-François Désérable, la coqueluche romanesque de la rentrée.
Oui, alors on ne parle que de lui, et j'avoue, ayant lu son 7e roman, Le Palais, paru chez Gallimard, que cela est vraiment mérité. Tant ce livre est brillant, caustique à souhait, il se lit presque cul-sec, si j'ose dire, car on l'aura compris, il ne s'agit en rien du palais de l'Élysée, mais bien du palais d'un certain Harun Kumar, orphelin indien, miséreux, adopté par un couple de bourguignons en 98, qui va découvrir les vignobles et surtout comprendre qu'il a un talent inouï pour explorer tous les cépages et trouver les mots, comme l'écrit Isabelle Spack, qui passait en revue tous les aspects du vin, depuis la description du contenu de la bouteille standard au vocabulaire de dégustation, donc vous savez, tanin, acidité, longueur en bouche, caudalie, note de tête, arôme de tabac froid, jusqu'à ces techniques d'élevage, de vinification, de travail accompli à la vigne et au chai. Mais ce livre n'est pas du tout didactique, ça coule de source. C'est vraiment une introspection au cœur des vignobles. La journaliste rappelle d'ailleurs que Désérable doit à l'Académie du vin de Bordeaux d'avoir été récompensé en 2024, tenez-vous bien, par le prix Montaigne, assorti de 120 bouteilles. Il a donc reçu 20 caisses de grands crus pour une valeur de 10 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Mais surtout, le héros, sans passer du palais, Harun Kumar se confronte se confronte à un critique dénommé Michael Vetterman. Alors c'est un amalgame nominal des experts en vin, Paul Wasserman et Robert Parker, c'est le redouté critique américain. Et il faut lire le roman pour comprendre dans quelles conditions, je dirais simplement comme le souligne la journaliste dans ce très beau portrait, que pour les professionnels en particulier, les vignerons, les prestigieux domaines bourguignons, l'intrigue du palais est beaucoup moins drôle car le roman part d'un scandale bien réel, hein. Celui-ci orchestré depuis les États-Unis dans les années 2000 par un faussaire en vin, un certain Rudy Kurniawan, un escroc condamné à 10 ans de prison et à près de 28 millions de dollars de dédommagement à 7 de ses victimes. L'affaire qui se déroule dans le milieu des collectionneurs de grands crus et des ventes aux enchères de jus prestigieux, notamment de Romane Conti, a été largement médiatisée grâce à un documentaire sur Netflix que je vous invite à voir qui s'appelle Raisin amer. Voilà, le livre s'appelle Le Palais et c'est signé Henri-François Désérable. Et si vous voulez lire ce très brillant portrait, il faut lire Le Figaro littéraire.
Eh bien, merci beaucoup, cher Gilles. Voilà, bon retour d'Italie et à très vite sur Radio Courtoisie.
À la semaine prochaine, merci à tous.
Toute l'équipe de Ligne Droite est en zone libre. Zone libre.
Alors Maëlys, il paraît qu'on vend la 4L de bébé.
Bah oui, effectivement, on vend la 4L de Brigitte Bardot, une actrice que j'aime particulièrement. Je vais voir si je ne peux pas déposer un petit billet pour l'acheter, mais je pense que je ne serai pas seule lors de ces enchères, donc ça risque de coûter cher.
Voilà, avec une plaque d'immatriculation qui commence par FN.
Oui, voilà, comme quoi c'est une femme de goût finalement, quand je le dis. Voilà. Même si elle n'a jamais nié sa proximité avec Jean-Marie Le Pen d'ailleurs.
Absolument. Vous aviez une nouvelle pour la zone libre.
Oui, tout à fait, et là on part en Pologne, puisqu'un mouvement militant a mis en scène une manifestation de robots pour réclamer une réglementation de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors dommage, on ne peut pas vous montrer les vidéos, chers auditeurs, mais en fait on voit littéralement des robots, donc en humain également, en animal, voilà, donc par exemple des chiens, qui manifestent devant le Parlement pour en fait limiter la place de l'intelligence artificielle. C'est fait par un mouvement militant un peu vieille école peut-être, enfin, qui font en tout cas promotion du papier et du crayon, disons, voilà, mais qui en fait s'oppose tout simplement au grand remplacement des emplois traditionnels, donc notamment les métiers d'écriture, etc., qui peuvent être allègrement malheureusement remplacés par l'intelligence artificielle. Je trouve ça assez symbolique, surtout que c'est fait par des jeunes, donc voilà.
Eh bien, voilà, symbolique, jeune et vieille école, tout ça nous plaît. Et vous, Magda ?
Moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai pensé à Maëlys parce que le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, je crois, a demandé directement à Céline Dion si elle pouvait venir chanter à Lisieux.
Excellent.
Bon, malheureusement, elle a décliné. On s'y attendait un petit peu. Ah mais
c'est dommage, ça a commencé comme un conte de fées. Là. Ouais, on avait l'impression qui évolue en 11e division et qui se retrouve à jouer la finale au Parc des Princes.
Elle lui reste les yeux pour pleurer.
Mais peut-être que ça la fera réfléchir, qu'elle fera une tournée rurale. Mais voilà, mais il a tenté. C'est une bonne.
Bah déjà qu'elle a beaucoup de dates, Céline Dion, je suis pas certaine qu'un concert supplémentaire lui plairait, même si c'est une artiste qui est aimée dans toute la France, enfin en tout cas par la France populaire. On connaît tous ces titres qui ont rythmé nos soirées, qui ont traversé les générations. J'imagine, Richard, quand vous êtes jeune, peut-être que vous avez dansé sur du Céline Dion.
Oui, peut-être, mais je ne sais pas.
D'accord. Bon.
J'étais surtout occupé à danser, en fait.
Les musiques en tant que telles vous intéressaient moins,
non,
ou ce qui vous intéressait,
c'était la fille avec qui je dansais, bizarrement. Voilà. Voilà. Et moi, je voudrais vous parler d'une association qui s'appelle Champs Libres aux Poules, avec des S partout. Champs S, libre donc aux poules, qui s'occupe de sauver les poules promises à l'abattage, parce que les pondeuses de réforme, normalement, sont abattues. Et donc, ils ont déjà sauvé 161 967 poules, 1726 oies, et aussi la dinde Chantal, dont je vous parlerai une prochaine fois plus en détail, qui est une dinde de la race noire du Gers.
On a l'image des petites poules dans le champ. Et
voilà. Chantal, c'est mignon pour moi.
Oui, mais tout à fait, c'est une œuvre tout à fait aimable. Et donc, Champs Libres aux Poules, on reviendra sur cette association. Chers auditeurs, c'est fini sur YouTube et sur X, mais évidemment, ne partez pas. Il va y avoir la rediffusion, il va y avoir l'annonce des programmes, il va y avoir le plaisir d'entendre le dernier bulletin d'information. Mais tout de suite, donc, un petit appel au don de la part d'Arnaud.
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement et nous en avons cruellement besoin, je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis également envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud. Et tout de suite, nous réécoutons l'entretien que nous a donné Anne Coffinier ce matin, qui menace les écoles indépendantes.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Indépendance. Suivez la ligne droite.
Et on parle maintenant d'écoles et plus précisément des écoles libres. Le hors contrat connaît depuis plusieurs années un véritable essor avec des parents qui cherchent d'autres réponses que celles proposées par l'éducation nationale. Mais ouvrir une école libre reste un parcours semé d'obstacles. Et pour en parler, nous recevons ce matin Anne Coffinier, présidente et fondatrice de Créer son école, qui est avec nous ce matin. Bonjour Anne Coffinier.
Bonjour Magda.
Pour commencer très simplement, Créer son école, qu'est-ce que c'est ? Quel est votre rôle concrètement auprès des écoles ?
Créer son école est une association, loi 1901, qui existe depuis 20 ans et qui est l'acteur de référence aux côtés des écoles complètement libres, qu'on appelle aussi écoles indépendantes, alternatives ou privées hors contrat. Et l'objectif de Créer son école est très simple, c'est de multiplier les écoles libres de qualité, de manière à ce que les familles aient un choix. Et donc notre rôle est très très concret, il s'agit d'une part d'accompagner les créateurs d'écoles, de les aider juridiquement, financièrement, de les conseiller souvent aussi au niveau pédagogique, de les mettre en réseau, de ne pas les laisser seuls, parce que quand on est un fondateur d'école indépendante, on peut être très seul. Et ensuite, de les former leurs professeurs et les défendre, ce qui passe parfois par du contentieux, ce qui passe parfois par un accompagnement, des démarches de type plus administrative. Donc faire en sorte qu'elles se développent dans de bonnes qualités pour offrir vraiment la meilleure éducation possible aux familles.
Vous accompagnez des écoles vous accompagnez justement des créations d'écoles, mais vous accompagnez aussi des écoles qui existent déjà.
Tout à fait.
Jusqu'où va justement cet accompagnement ?
Alors, donc, en gros, il faut déjà savoir qu'il y a 2665 établissements en France, donc beaucoup plus que ce que les gens pensent souvent, qui scolarisent à peu près 140 000 élèves. Nous accompagnons les établissements qui nous le demandent et qui sont membres de notre association, puisqu'il y a une adhésion qui fait qu'on s'occupe en particulier des écoles adhérentes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait très concrètement ? Ben, je vous donne un exemple d'aide qu'on a pu apporter hier. Un groupe d'écoles fait l'objet d'inspections qui s'appellent CODAF, ces inspections où tous les ministères envoient au même moment des inspecteurs, donc des inspections très agressives, très à charge, et qui sont confrontés à des attitudes des inspecteurs qui sont inacceptables. Par exemple, des inspecteurs qui posent des questions tout seuls à une petite fille de 7 ans sur sa vie sexuelle, ou bien si ses parents la forcent à aller à l'église, ou bien si chez elle, elle mange à sa faim. Donc, quand on a, par exemple, on est confronté à des dérives de ce type de la part des inspecteurs, eh bien, il faut réagir. Donc, ces écoles, par exemple, nous ont demandé hier un rendez-vous en urgence, en expliquant la situation et en demandant comment il avait lieu de réagir. Et là, on est en train d'étudier une réponse pénale. Parce que, à l'heure même où on dit qu'il faut absolument préserver les enfants de toute agression pédocriminelle, et évidemment que c'est une urgence, on ne peut pas, dans le même temps, en tant qu'État, donc théoriquement, les fameux adultes de confiance, n'est-ce pas ? On ne peut pas, en tant qu'État, venir déstabiliser un enfant de 7 ans, puis il y a eu d'autres enfants qui ont été aussi déstabilisés comme ça, sous prétexte de faire une inspection d'une école. Voyez ? Donc là, c'est l'exemple type de mon rendez-vous entre 16h à 17h d'hier soir. Voilà. Très concret.
En fait, vous accompagnez également donc, les écoles face aux inspections.
Oui, alors par exemple, quand vous avez une inspection, parfois vous recevez un compte-rendu d'inspection. Théoriquement, c'est tout le temps, mais en fait, les inspecteurs ont tendance à envoyer le rapport que quand il est mauvais, et quand il est bon, ils préfèrent ne rien dire du tout. Donc, quand vous recevez votre rapport, vous avez un délai pour répondre. Et c'est très important de répondre dans les délais et de répondre de manière intelligente, documentée, justifiée juridiquement. Et pour ça, les écoles ne peuvent pas être seules. Et donc, notre service juridique les accompagne, soit en interne, soit en leur recommandant des avocats spécialisés.
Et Créer son école, vous accompagnez également les écoles qui sont sous contrat et vous les accompagnez pour ouvrir des classes hors contrat. Donc en fait, il y a du hors contrat dans le sous contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette...
Alors, l'objectif de Créer son école, c'est de développer la liberté scolaire. Et l'esprit de l'enseignement libre, l'esprit de la liberté d'enseignement, il doit souffler partout. En théorie, il faudrait même qu'ils s'ouvrent dans l'école publique. On en est assez loin, bien même s'il existe une liberté pédagogique à laquelle les professeurs sont très attachés. Donc, ça existe aussi, bien sûr, dans l'enseignement privé dit sous contrat. Et donc, notre rôle à créer son école, c'est d'aider les réseaux d'enseignement privé sous contrat, et donc notamment l'enseignement catholique, à utiliser ce qui correspond à leur liberté. Il y a un établissement, cet établissement il est à la fois sous contrat avec l'État, il fait aussi partie du réseau d'enseignement catholique, mais c'est aussi un enseignement libre, un établissement libre, qui relève de l'école libre. Et donc, à ce titre-là, il a des libertés qu'il doit utiliser, qu'il peut utiliser, mais faut-il encore qu'il les connaisse et qu'il les cultive. Donc, notre rôle à créer son école, c'est de les aider quand ils veulent utiliser ces libertés. Et concrètement, le contrat se passe par classe et non pas par établissement. Donc, on dit, par exemple, je ne sais pas, moi, Stanislas est un établissement sous contrat. Bon, c'est une sorte de facilité de langage. En réalité, ils peuvent très bien avoir, ou demain avoir, des classes hors contrat, puisque c'est par classe. Et aujourd'hui, on a une époque où l'État n'a pas l'intention de passer de nouvelles classes sous contrat. C'est même le contraire, l'État récupère des contrats. Il demande de rendre des moyens financiers, il demande de réduire le nombre de classes financées par l'État. Donc des établissements qui sont pleins, c'est le cas notamment à Paris, qui ont même des listes d'attente, sont obligés de rendre des moyens financiers, donc rendre des postes budgétaires, fermer des classes, parce que l'État leur demande de fermer des classes. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le nombre d'écoles, le nombre de classes sous contrat n'est pas lié à la demande des parents, il est lié au bon vouloir de l'État. Alors, de manière économique, on appelle ça une politique de l'offre, c'est-à-dire que l'État dit, voilà quelle sera l'offre, vous aurez droit à 80% de public, 20% de privé, et peu importe les demandes des parents, et peu importe l'état de l'école, peu importe que le public marche moins bien que le privé, c'est comme ça. C'est moi, l'État, qui organise la carte et la répartition de public-privé. Et donc, notre rôle à créer son école, c'est d'accompagner notamment les établissements privés sous contrat qui veulent utiliser plus leur liberté scolaire et qui veulent donc créer des classes hors contrat pour lutter contre cette réduction imposée par l'État, continuer à accepter des familles, les accueillir, se développer et aussi cultiver des spécificités pédagogiques, éducatives, spirituelles. Imaginez que vous vouliez créer une école spécialisée, une classe avec une spécialité latin-grec renforcée, ou une classe où il y a un atelier d'écriture une heure par jour pour vraiment développer les capacités rédactionnelles et travailler sur l'expression, et ça fait partie de votre projet, ou une classe bilingue, ou une classe spécialisée pour des enfants qui ont un trouble de l'autisme et donc vous allez rajouter ou aménager des choses, et bien dans tous ces cas-là, c'est le hors-contrat qui est la meilleure forme pour développer votre projet.
Et vous parliez justement du fameux 80-20.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu rapidement ce que c'est? Et surtout, oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou justement c'est une fausse bonne idée, ce 80-20?
Oui, alors donc, en 1984, il y a eu de très grandes manifestations pour lutter contre le projet qu'avait le président Mitterrand que l'enseignement privé soit absorbé par l'enseignement public. Et donc, à la suite de ces grandes manifestations qui ont mis des millions de gens dans la rue, donc qui est très très importante en matière de défense des libertés dans la culture politique française, à la suite de ces grandes manifestations, il y a eu une sorte de compromis politique qui a été trouvé, et on s'est dit que le partage entre le public et le privé sous contrat serait égal à ce qu'il est en 1984, c'est-à-dire à l'époque, il y avait 80% d'enfants dans le public et 20% dans le privé sous contrat. Donc il y a une sorte de gel des frontières et il y a une sorte de totem qui n'a aucune base juridique. De ce totem, c'est que il n'y a pas de guerre scolaire si on maintient cet équilibre 80-20. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui ont plutôt tendance à accepter cette réalité-là et qui prennent leur parti du fait que oui, il y a un secteur privé sous contrat financé par l'argent public. Et puis il y a d'autres personnes comme par exemple le Grand Orient, qui fait partie de donc la loge maçonnique du Grand Orient, ou comme le CNAL aussi, enfin une partie du CNAL, Comité National d'Action Laïque, qui n'accepte pas l'idée qu'il y ait un secteur privé subventionné. Et donc qui continue à militer pour qu'il y ait un monopole public éducatif sans secteur privé. Donc dans ce contexte-là aujourd'hui, on a un recul démographique, donc la population scolaire diminue fortement, puisque, par exemple, en 10 ans, on va perdre 1,7 million d'élèves. Donc, dans le cas de ce recul démographique, l'État a prévu de fermer des classes. Et la question, c'est quelles classes on ferme? Va-t-on fermer dans le public ou dans le privé? Et selon quelle répartition? Et donc là, c'est un débat politique qui mériterait d'être posé. Ceux qui veulent garder le 80-20 disent ben, « on va appliquer le 80-20 ». Donc ça veut dire qu'en pratique, dans bien des endroits, on va fermer des classes publiques qui sont à moitié vides et on va aussi fermer des classes privées qui sont pleines. Et dans ce cadre-là, on dira qu'on fait du 80-20. Mais en réalité, on ne fait pas du 80-20. Vous voyez, puisqu'on ferme d'un côté des classes vides et on ferme de l'autre côté des classes pleines. Voilà, donc ça, c'est la règle, entre guillemets, mais ça ne veut rien dire, parce que ce fameux 80-20, c'est une réalité qui est calculée au niveau national. Et lorsque vous descendez sur le territoire, par exemple au niveau d'une commune, au niveau d'un département, vous vous rendez compte qu'il y a des zones où il n'y a quasiment pas de privé, et des zones où il y a 50% de privé, comme par exemple en Bretagne. Donc, ce fameux ligne de conduite du 80-20 est aujourd'hui assez inopérante. Pour autant, elle a pu aider à une certaine époque, par exemple l'enseignement catholique privé sous contrat, à garder son réseau à une époque où le rapport démographique ne lui était pas favorable. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, il a plutôt tendance à gêner l'enseignement privé catholique et les autres réseaux privés sous contrat. Mais comme c'est un peu technique, il n'y a pas de base juridique, c'est assez difficile de faire comprendre, notamment dans un débat politique, cette réalité. Mais il faut noter avec intérêt que Bruno Retailleau a demandé, dans son programme politique, de supprimer le 80-20 et donc de faire beaucoup plus de place à la demande des parents, puisqu'après tout, les parents, ce sont des citoyens qui ont bien le droit quand même, parmi leur liberté politique et leur liberté de parents, et liberté religieuse, d'association, d'éducation, ils ont bien le droit de faire ce choix, de choisir l'école de leurs enfants. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce droit leur est dénié. On leur dit, c'est nous, État, qui allons choisir pour vous si vous allez pouvoir mettre votre enfant dans le public ou dans le privé. Déjà, je rappelle que dans le public, il y a une carte scolaire obligatoire. Mmh. Donc déjà, vous ne choisissez pas votre école précise. Vous avez un déterminisme géographique. Selon où vous habitez, vous aurez droit à une bonne école ou une mauvaise école. Mmh. Et puis, dans le privé, eh bien, vous pouvez y accéder que si vous avez les moyens financiers et si éventuellement vous avez quelques connexions, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Et puis, si il y a de la place, tout simplement.
Mmh. Alors juste, nous en revenir aussi dans un instant, juste pour vous rappeler, chers auditeurs, nous sommes actuellement avec Anne Coffigné, qui est présidente fondatrice de Créer son école. Nous aurons la chronique dans 5 minutes, dans 6 minutes précisément, à 7h30, la chronique d'Arthur de Vatrigan, suivie de l'entretien avec Hervé Carès au sujet de l'Ukraine, quel jeu joue l'Union européenne. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, Anne Coffigné, vous parliez justement de la place politique au sujet des écoles hors contrat. Vous parliez justement du Grand Orient de France qui en a parlé. C'est pratiquement un sujet même dans les campagnes présidentielles, alors que c'est quand même une minorité des écoles. Comment ça se fait que ça prenne autant de place alors que finalement, il y a des écoles hors contrat dans tous les panels politiques. Enfin, tout le monde est concerné, tout le monde a des écoles hors contrat, entre guillemets. C'est pas que, comme on en a l'image, c'est pas que la droite ou que les catholiques. Comment ça se fait que ce soit autant en contradiction alors que finalement, ça touche tout le monde?
Alors, il est clair que les écoles privées hors contrat ont une sorte de rôle, de signe de contradiction dans le paysage éducatif français. Alors qu'elles ne représentent qu'1% des élèves, donc rien en soi. Il se trouve qu'elles sont en forte croissance, puisqu'il y a eu 85 ouvertures cette année, à un moment où l'État ferme massivement les classes dans le public et dans le privé sous contrat. Donc, il y a un côté contracyclique, il y a un côté où nous nous développons quand les autres se replient. Donc, ça déjà, ça interroge beaucoup. En plus de ça, les écoles hors contrat n'ont aucune subvention publique. Et dans les écoles hors contrat, les parents sont très importants. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un bras de fer dans le public et un peu dans le privé sous contrat, mais surtout dans le public, il y a un bras de fer très regrettable, qui d'ailleurs est au cœur des problèmes, entre les familles et l'institution. De plus en plus, vous avez une institution qui fragilise la légitimité des familles dans l'école publique et qui finalement les charge de tous les maux. Je vous donne un exemple qui est vraiment choquant. Vous avez eu les résultats PISA il y a 2 jours. Et le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a fait un commentaire. Et dans ce commentaire, il donne 3 causes de cet effondrement dramatique, hein, puisqu'on a perdu, en 3 ans de temps, on a perdu l'équivalent d'une année scolaire d'apprentissage. Donc, Là, c'est une débâcle, c'est une déroute. Il n'y a plus de termes hein, pour expliquer la situation de l'école publique. Enfin, je dis école publique parce qu'évidemment, sur les statistiques, elle pèse massivement, puisqu'il y a aussi les privés sous contrat qui sont intégrés dans les statistiques, mais comme ils ont respecté la proportion, c'est quand même l'école publique qui donne le niveau de classement. Et donc, comme explication, il a dit qu'une des trois raisons, c'était le recul de l'investissement des parents qui s'intéressaient moins aux études des enfants, qui passaient moins de temps, etc. Il faut quand même oser le faire. Quand vous avez un système qui s'effondre, d'expliquer qu'en fait, c'est la faute des parents. Donc, la situation actuelle est une situation où ce qui fonde l'essor des écoles hors contrat est vraiment une source de remise en cause idéologique, en réalité, du logiciel de compréhension de la réalité scolaire en France. Une école hors contrat, ce sont des gens qui, au lieu de se plaindre et d'attendre la cistana de l'école publique, prennent les choses en main, fondent, entreprennent, assument leurs responsabilités de parents et d'acteurs de la société civile et agissent concrètement sur le terrain. Donc, on est quand même dans une société où le politique ne sait que promettre des subventions, promettre des réformes où l'État va intervenir. Et dans les écoles hors contrat, c'est le contraire qui se passe. Les familles disent « qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant ? Je m'organise, je le fais. » Et ça, c'est insupportable, politiquement.
Malheureusement, il nous reste qu'une minute trente, Anne Coffinier. Donc rapidement, en une minute, vous parliez la dernière fois à notre antenne du cas du prix Tanné et vous avez c'est un combat que vous avez gagné en première partie. Quelle est la suite quelles sont les prochaines étapes et surtout, est-ce que c'est un cas qui est isolé?
Alors, le prix Tanné, c'est qu'on s'était rendu compte que le lycée militaire du prix Tanné, donc à la Sarthe, avait refusé officiellement et totalement les élèves issus des écoles hors contrat. Et il l'avait écrit noir sur blanc sur Parcoursup. Donc, nous avons réagi, nous avons pu obtenir une enquête, une commission de révision des dossiers des élèves qui avaient été mis de côté, à savoir 54 élèves, une réintégration des meilleurs d'entre eux, ou ceux qui ont été jugés les meilleurs d'entre eux. Et pour maintenir la pression et attendre que ça soit expliqué noir sur blanc que désormais on ne pourra plus jamais discriminer un enfant sur la base de son origine scolaire. Nous avons donc une série de recours juridiques en cours où nous espérons avoir une heureuse issue et nous attendons la sortie de la circulaire qui nous a été promise pour cette semaine. Alors, peut-être que l'État va prendre un peu de retard, mais cette circulaire va donc rappeler aux établissements, aux six lycées de la Défense qu'il n'est pas possible de mettre de côté des élèves issus du hors contrat au regard donc de leur origine scolaire et que la seule chose qui compte, c'est le mérite scolaire.
Bah merci beaucoup Anne Coffinier.
Merci à vous, Moïda.
On n'a plus le temps, mais on vous recevra une prochaine fois pour en parler.
Merci.
Merci
beaucoup.
Bonne
journée à tous.
Ligne droite avec Richard de Sèze.
Et voilà, chers amis, c'est très bientôt fini, mais on va pas se quitter sans avoir parlé d'argent. On a besoin d'argent. Alors, on en a peut-être pas un manque aussi cruel que le dit Arnaud, mais néanmoins, ça serait bien d'en avoir un peu plus.
Le manque d'argent est toujours cruel, quelque part. Si vous souhaitez aider Radio Courtoisie à défendre vos idées, eh bien, faites-nous des dons en ligne, par exemple, en vous rendant sur soutenir.rc.fr. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir également par vos chèques, eh bien faites-le en les envoyant à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci beaucoup Arnaud. Et avec tout ce bel argent, on fait de très bonnes émissions.
Dans un instant, par exemple, Culture Éducation, dirigée par Sophie Rouberti. À midi, vous pourrez suivre le Libre Journal des Entrepreneurs, dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion, innover pour durer dans l'événementiel. À 14h en direct, le Libre Journal des Traditions dirigé par l'abbé Alain Laurence, antilibéralisme catholique et tension mondiale avec l'abbé Cellier et Antoine Delacoste. À 17h, sans sum corda de l'abbé Mathieu Raffray, au programme cette semaine, la liberté humaine. À 17h30, restons courtois avec Marc Henault en direct. À 19h30, toujours en direct, le Libre Journal de Jacques Trémollet de Villers dirigé par Hilaire de Crémier, la prétendue éducation affective et sexuelle à l'école et dès le plus jeune âge, avec comme invité Louis Stagir et Henri Baclet, excusez-moi. À 21h30, enfin, en direct, le Libre Journal des Chevaux Légers dirigé par Luc Le Garsmeur, ses régimes qu'on enterre avec Jérôme Ferenbach et Jean-Jacques Paulet.
Et demain, nous parlerons dans Ligne Droite avec Emmanuel Darle d'intelligence artificielle, avec le député RN Thierry Tesson de Mille Choses, mais surtout c'est un député qui travaille et qui est dans sa circonscription, et enfin avec l'abbé Loiseau sur les différences entre Allah et Dieu, parce que c'est pas du tout la même chose, et que le fait que ce ne soit pas le même Dieu, ça explique vraisemblablement beaucoup de choses sur le mal, la manière dont le musulman se sent bien ou pas en France.
Merci Richard et à demain.
À demain.